RMC Intégral Tour. Céline Géraud.
Il est 19h06, salut à tous, c'est l'Intégral Tour, deuxième épisode. Alors avant de filer à foie à l'arrivée de la 14e étape, retrouvez Christophe Cessieux, Cyril Guimard, Luc Leblanc et Thierry Bourguignon. Toutes les infos, tous les résultats, toutes les indiscrétions sont dans le journal des sports.
RMC Sport.
Martial.
Salut Céline.
Alors, on commence par le direct, l'actu, un France-Espagne.
Le plus frais France-Espagne handball du côté de Strasbourg. On va aller retrouver Gauthier Koutsmann. Ça vient de se terminer. Et une bonne nouvelle pour les champions olympiques en titre.
Une très bonne nouvelle pour l'équipe de France qui a battu l'Espagne assez largement, 31 à 24. Les handballeurs qui ont vengé leurs homologues basketteurs. Ils ont rendu une partition quasi parfaite pour leur deuxième match de préparation. Ils sont en tout cas montés d'un cran ce soir ici à Strasbourg face à l'Espagne. On les avait vus tendus avant le match. Ils ont finalement gérer leur avantage parfaitement tout au long de la rencontre. On les a vus très concentrés. Il y a des sourires. Là, en fin de match, ils sont en train de récupérer le trophée de l'Eurotournoi. Un Eurotournoi qu'ils avaient gagné il y a 4 ans, ici même à Strasbourg. Face à qui ? Face à l'Espagne. Je ne sais pas s'il faut y voir un signe, mais en tout cas, c'est encourageant. Une belle victoire, 31 à 24, avant le deuxième match de préparation la semaine prochaine, face à la Hongrie à Dunkerque.
Merci Gauthier Koutsmann. Et c'est à 12 jours des Jeux Olympiques, donc c'est quand même un signe encourageant pour les Français.
Et pendant ce temps-là, sur le Tour de France, une belle pagaille aujourd'hui à 38 km de l'arrivée.
On retiendra cet incroyable épisode au sommet du mur de Péguerre. Près d'une trentaine de coureurs ont dû changer de roue, responsable des clous jetés volontairement sur la route juste avant le passage du peloton. Explication de Christian Prudhomme, le directeur du Tour.
Ce n'était pas normal sous ces crevaisons, et effectivement il y a des clous de tapissier dans les pneus des motos. De nombreux coureurs ont crevé, ça a commencé à environ 200 mètres avant le sommet du mur de Péguerre. Ça s'est poursuivi dans la descente, 20, 30, 40 crevaisons pour les coureurs, mais aussi pour les motos, mais aussi pour les voitures. Et en revanche avec nous en tête de course, absolument rien, donc c'est quelqu'un qui a dû balancer ça entre le passage des échappés et le peloton.
Vous pouvez porter plainte ?
On verra, en tout cas c'est stupide évidemment.
Christian Prudhomme au micro de Pierre-Yves Leroux. Image spectaculaire également, la détresse de l'Australien Cadel Evans au sommet du mur de Péguerre, seul avec son vélo, en train d'attendre pendant 2 minutes la roue d'un équipier parce que les voitures des directeurs sportifs n'avaient pas le droit d'emprunter cette route trop étroite. À l'arrivée, pas de dégâts pour Evans parce que le groupe Maillot Jaune a décidé d'attendre le vainqueur du Tour 2011. Devant, la première victoire espagnole sur ce Tour 2012, c'est à foie pour cette 14e étape. Et c'est Luis León Sánchez qui s'impose, le plus fort et le plus malin d'un groupe de 12 échappés. Le gros du peloton est loin, arrivé à plus de 18 minutes. À 28 ans pour Sanchez, c'est la 4e victoire d'étape sur le Tour. Derrière l'Espagnol, le 3e du jour est français. C'est Sandy Cazard, le coureur de la FDJ Big Mat. Déçu à l'arrivée, oui, mais pour Cazard, le résultat est logique.
C'est une déception. Bon, on est dans l'échappée, c'est pour gagner. Après, bon, il y avait 11 coureurs dans l'échappée. Il y avait les 11 qui pouvaient gagner. C'était 11, on était 11 costauds. On est parti en costaud. Donc voilà, après dans le final, ça s'est regardé. J'ai eu un petit temps mort, un petit moment d'hésitation et Luis León Sánchez est sorti. Derrière, on s'est bien organisé assez vite, mais bon, il a creusé tout de suite et je crois qu'il était très fort.
Sandy Cazard au micro de Pierre-Yves Leroux. Pas de changement au classement général et toujours le même podium. Bradley Wiggins avec 2 minutes et 5 secondes d'avance sur son coéquipier Christopher Froome. L'Italien Vincenzo Nibali est toujours 3e à 2,23. Demain, c'est la 15e étape entre Samatan et Pau, 158 km 500, sans grande difficulté. Et une arrivée à Pau, la 3e ville la plus visitée par le Tour de France. Après Paris et Bordeaux, le Tour est passé 64 fois à Pau.
Un autre France-Espagne en basket cette fois, un match électrique et des Français qui sont pas passés très loin de la victoire.
Une défaite de 5 points, 75 à 70, ce fut tendu. Les deux équipes se sont prises au jeu à l'arrivée, un revers des Bleus face aux champions d'Europe. Mais il y a eu de l'envie et une belle ambiance dans la salle de Bercy. La bonne nouvelle aussi, c'est la présence enfin de Nicolas Batum sur les parquets. Il a pris la décision seul, il a joué sans assurance, sans l'accord officiel de son club. Ça le démangeait trop avant la rencontre.
J'avais une heure et demie sur le terrain, j'ai fait Patrick Gavard. On s'en vient voir. Je peux pas rester sur le banc. Je peux pas. J'étais obligé. Il m'a dit non. J'ai dit je m'en fous. T'es non, moi j'ai juste un oui. Non, mais j'ai eu quoi. Et c'est tous peur quoi. Mais ça s'est bien passé. Quand je suis sorti, Vincent était soulagé. Patrick Bisley était soulagé. Tout le monde était soulagé. Donc ça s'est bien passé.
Et... Il n'était pas ta maman, Bisley, les deux.
Non, pour ça qu'avant l'entre-deux, je suis parti la voir. Elle m'a regardé avec des gros yeux, elle m'a dit, tu fais quoi? J'ai fait, t'inquiète pas, j'y vais doucement. Ce soir, je suis parti la voir, lui faire un bisou pour la rassurer. Elle n'était pas du tout rassurée, mais bon. C'est bon, ça a été quoi.
Voilà, même la maman de Nicolas Batum n'était pas dans la confidence. Nicolas Batum qui répondait aux questions de François Giuseppi. L'autre bonne nouvelle, c'est que Boris Diaw, lui, avec assurance, a pu lui aussi jouer quelques minutes contre l'Espagne.
Et toutes les réactions aussi avec Jacques Monclar, hein, tout à l'heure dans Before London à partir de 20h.
Dans une semaine, le pilote de Formule 1 Romain Grosjean partira avec une pénalité de 5 places sur la grille du départ du Grand Prix d'Allemagne. Le Français sanctionné pour avoir changé sa boîte de vitesse juste après le dernier Grand Prix à Silverstone. Aujourd'hui, Romain Grosjean, membre de la Dream Team RMC Sport, qui était l'invité de Motors, a expliqué qu'il s'y attendait, mais qu'il fallait relativiser. La pénalité tombe peut-être au bon moment, vu le tracé du circuit d'Hockenheim.
C'est vrai que ce changement de boîte de vitesse, il tombe mal. Maintenant, je le savais, puisque on a fini le dernier tour de Silverstone en roue libre. J'ai eu la chance de finir la course. Et puis, Hockenheim, après, on a fait la première simulation avant-hier, je crois, sur toutes les simulations qu'on lance. Et on en a entre autres une sur la possibilité de dépassement. Et on se rapproche de Bahreïn en termes de facilité de dépassement ou de possibilité. Donc voilà, c'est un bon circuit pour avoir entre guillemets 5 places de pénalité. Ça aurait été sur la Hongrie, la course d'après, je pense que c'était plus compliqué.
Un moindre mal donc pour Romain Grosjean, pour l'instant 7e au classement du championnat du monde, toujours mené par l'Espagnol Fernando Alonso. La course parfaite pour Lorenzo aujourd'hui sur le circuit de Mugello. La première place dès le premier virage pour Jorge Lorenzo, l'Espagnol qui va rester en tête jusqu'au bout du Grand Prix d'Italie. C'est son 22e succès en MotoGP derrière lui, son compatriote Dani Pedrosa et l'Italien Andrea Dovizioso. Casey Stoner, le champion du monde en titre, se classe seulement 8e. Le Français Randy Depugnier termine 12e. Et puis je vous rappelle l'information de ce début de journal, c'est tout frais, la victoire de la France face à l'Espagne 31-24 en handball du côté de Strasbourg dans l'Euro tournoi, c'est bon signe.
Merci Martial, et on en reparle justement de cette victoire des experts du handball tout à l'heure dans Before London. 20h, 22h, le rendez-vous à ne pas manquer avant les Jeux. Allez, vous restez avec nous, c'est l'intégral tour. Bien sûr, on va filer tout de suite du côté de Foix, retrouver Christophe Cessieux et son orchestre. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Céline. Effectivement, nous sommes là avec le grand orchestre du Splendide pour le clou du spectacle.
Les experts Miami sont dans l'avion, sachez-le, pour enquêter.
Très bien, on les attend. Nous les attendons ici à Foix. On va pas rester longtemps, faut quand même qu'ils se dépêchent. Je ne vais pas rester longtemps parce qu'il fait un temps de cochon aujourd'hui sur l'Ariège. En tous les cas, nous allons revenir évidemment durant les trois quarts d'heure qui nous séparent de 20h sur cette histoire incroyable. Ces clous de tapissiers jetés sur la route du Tour et qui ont poussé plein de coureurs à mettre pied à terre, à changer les roues, ce qui a provoqué une belle pagaille. Nos débats ce soir vont tourner autour des clous évidemment. On va revenir notamment sur l'attaque de Pierre Roland qui a décidé lui d'attaquer. Il n'a pas été victime d'une crevaison et il en a profité pour attaquer. Alors était-il au courant? On n'en sait rien, on l'entendra dans un instant. Pierre Roland a-t-il fait une erreur en attaquant après la crevaison de Cadel Evans? Et puis deuxième débat, là c'est un peu provoque hein, mais faut-il des clous pour avoir du spectacle sur ce Tour de France? On se posera la question avec Lucho, avec Cyril et avec Thierry Bourguignon dans un instant et jusqu'à 20h évidemment comme tous les soirs.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
C'est bon, parti, bonsoir à tous.
Oh, martelant à grand coup, la pointe du pauvre clou qui n'en pouvait plus.
Une histoire de clou. C'était Adamo qui chantait ça dans Oh, il y a longtemps, hein, Cyril. Toi qui es notre mémoire vivante, Adamo et les clous, ça te dit quelque chose?
Les clous, oui, ça me dit quelque chose. Ça ne m'étonne pas que Adamo puisse le chanter, puisque vous savez que les clous sur le Tour de France, c'est un véritable marronnier.
C'est un marronnier. On va en reparler évidemment. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Lucho est également avec nous.
Bonsoir, bonsoir.
Et puis Thierry Bourguignon également.
Bonsoir.
Salut Thierry.
Bonsoir.
Alors, on va évidemment revenir sur cette histoire de clou, histoire de fou, qui a été en quelque sorte le clou du spectacle aujourd'hui, il faut bien le dire, car c'est à peu près à ce moment où on a vibré dans cette course. Alors, faut-il des clous pour avoir du spectacle sur ce Tour de France? Évidemment, on ne pardonne pas, on n'excuse pas le geste d'un spectateur, on ne sait pas encore, puisque l'enquête a été ouverte, mais oui, c'est complètement irresponsable même, mais en tous les cas, c'est vrai qu'il y a eu, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose, car malheureusement, sur le reste de cette étape, il ne s'est pas passé grand-chose, en tous les cas, en ce qui concerne le classement général. général. Une étape remportée par Luis Leon Sanchez, espagnol, qui n'en est pas à une première. Quatrième victoire d'étape pour l'espagnol de la formation Rabobank, lui qui avait déjà également remporté Paris-Nice ou encore la Classica San Sebastian, et dont le frère Cyril, puisque là aussi tu sais tout, est un footballeur professionnel. Incroyable.
Non, ne me faites pas croire ou faites pas croire que je sais tout.
Presque.
Non. Oui, non, mais je savais que son frère était effectivement un très grand joueur de football en Espagne. Il aurait pu peut-être lui aussi être footballeur, ou son frère aurait peut-être pu être cycliste.
Ils sont tous footballeurs dans
la... Une chose est certaine, ils avaient du talent tous les deux.
Ils avaient du talent, effectivement.
Enfin, ils ont
toujours du talent. Son frère, c'est Pedro León, qui évolue à Getafe en prêt du Real Madrid. Donc, c'est quand même pas rien. Alors, messieurs, nous allons évidemment peut-être escamoter la victoire d'étape. C'est vrai que c'est important pour Luis León Sanchez, mais c'est déjà la quatrième. Malheureusement, Sandy Cazard, lui... Ah oui, on en parlera tout à l'heure avec les paris, parce que là je peux vous dire que Lucho Cleron, hein, il avait donné le vainqueur aujourd'hui, et il va faire un beau rapproché au classement général. Mais bon, on va revenir évidemment sur l'épisode marquant de cette étape. Donc, ces clous qui ont faussé un peu la course pendant un moment, en tous les cas. Clous qui ont donc été jetés sur la route dans les derniers mètres avant le passage au mur de Péguer, et qui ont provoqué une belle panique, puisque plusieurs coureurs, et pas des moindres, ont été obligés de s'arrêter, notamment Cadel Evans, qui a été victime de crevaison, qui a mis beaucoup de temps à être dépanné par son directeur sportif. Il y a eu un peu de panique dans les rangs de Cadel Evans. Du coup, comme il n'était pas le seul, qu'il y avait environ une trentaine de coureurs dans la même situation, et bien Bradley Wiggins, qui était en tête de course, a décidé d'arrêter, de neutraliser en quelque sorte, en tous les cas, d'attendre les coureurs qui arrivaient derrière, et donc qui a permis à Cadel Evans de rentrer. Mais tout le monde n'a pas obéi aux injonctions, puisque notre ami Pierre Roland a profité de l'occasion pour attaquer. Alors, a-t-il profité de l'occasion ou n'a-t-il pas entendu les ordres? On va écouter tout de suite. On va l'écouter. Il nous explique, Thierry.
Excusez-moi, cher ami.
On va l'écouter, Pierre Roland, tout de suite, nous expliquer ce qui s'est passé et pourquoi il a décidé d'attaquer à ce moment-là. On l'écoute.
J'ai juste tenté de reprendre du temps. Après, quand j'ai réintégré le peloton, parce qu'il y avait un fort vent et que ça roulait très vite derrière, on m'a demandé pourquoi j'avais attaqué à ce moment-là. J'ai dit, tout simplement que j'avais envie de reprendre quelques minutes au classement général pour rattraper mon retard. Et elle me dit, mais il y a eu un champ de crevaison, ça se fait pas. J'ai dit, mais à aucun moment je savais que... Voilà, je pense être un coureur qui respecte le peloton et ses codes pour pas faire ça. Et je pense avoir quand même assez de classe pour pas avoir besoin d'attaquer sur une trentaine de crevaisons. Je suis vraiment désolé pour ce qu'on crevait en tout cas.
Roland qui s'excuse, qui s'explique. Alors, est-ce qu'il a eu raison? Est-ce qu'il a fait une erreur en attaquant après la crevaison? On va commencer avec toi, Lucho.
Je crois qu'il n'y a pas lieu de polémiquer par rapport à Pierre Roland. Je crois que ses propos sont clairs. Et il est convaincu que quand il attaquait, il attaquait pour reprendre des minutes. Mais alors, des minutes, peut-être des secondes.
C'est jusqu'à 1 minute 50 d'avance.
Oui, c'était loin de l'arrivée quand même. C'était à environ entre 25 et 30 km de l'arrivée. Mais ceci dit, je crois que Pierre Roland, il faut carrément l'excuser. Il a eu les infos après, certainement par son directeur sportif via les oreillettes. Et donc, il s'est relevé immédiatement. Mais c'est sûr qu'il aurait su qu'il y ait, au niveau des crevaisons, que c'était dû à des punaises. Je ne pense pas qu'il attaquait à ce moment-là. Donc,
mais rappelle-toi Contador et Schleck, il y a de ça quelques temps.
Oui,
là
mais
aussi,
d'accord, mais il ne faut pas comprendre.
Incident mécanique dont est victime Andy Schleck et Contador qui attaque.
Oui,
mais une personne.
Pierre Roland n'est pas espagnol. Il est français.
Lucho, tu enfonces les Espagnols et les Français, tu les encenses.
Non.
Ah bah bravo, Lucho, bravo.
Non.
Non, mais ça veut dire, Lucho, que tu pars de l'a priori que ce que dit Pierre Roland est l'exacte vérité.
Ben, je dis que Pierre Roland a attaqué.
Il dit qu'il a pas
en ne sachant pas, c'est pas qu'il n'est pas.
Il était dans le groupe de tête,
mais il était à l'avant du groupe de tête, mais il a pas vu ce qui se passait peut-être.
Il était pas à l'avant, il sort de l'arrière.
Il a vu une crevaison, mais il ne savait pas à ce moment-là que c'était dû aux punaises.
Attention,
non, je pense qu'il faut quand même excuser Pierre Roland. Et d'ailleurs, je crois, il s'exprime très très bien, Pierre Roland. il a du respect pour les coureurs, il a des respects pour ceux qui sont classés au classement général, et il ne va pas attaquer les coureurs sur un incident comme celui qui s'est déroulé aujourd'hui. Non.
Il aurait eu temps de le faire, Thierry? Ça se fait pas?
Bien sûr que ça se fait pas. S'il y a une personne qui a un problème mécanique, je comprends. Mais là, c'est plusieurs personnes. Mais il faut savoir que certains équipiers de Cadel Evans ne l'avaient même pas vu s'arrêter. Donc, Donc on peut penser que ce qu'ils disent c'est la vérité.
Ouais. Donc ça veut dire que désormais dans
attends,
le cyclisme.
Je sais pas ce que tu me racontes là. Cadel Evans, s'il avait qu'un seul équipier, c'est le leader du classement des jeunes.
Et ben il est passé sans le voir.
Sur une crevaison en descente. Tu ne décroches pas tout de suite.
Non, c'est pas en descente, c'est au sommet.
Oui, mais attends.
C'était au sommet.
Quand tu passes au sommet et que tu crèves au sommet, si t'as un équipier dans le groupe de tête qui plus est leader du classement du classement des jeunes.
Et alors tu laisses le leader sur le bord de la route.
Non,
je vois pas les choses comme ça, moi.
Écoute, je suis désolé, t'as couru avec moi. Je disais toujours, on n'attend pas sur crevaison à partir du moment où dans certaines situations. Attends, on se met en queue et on attend de voir. On sait très bien que dans une descente, un coureur tout seul avec l'abri des voitures, il rentre plus vite qu'à deux ou trois.
Oui, mais Cyril, tu oublies que quand même, c'est
le mur de Péguerre.
C'était le mur de Péguerre. Mais attends, les trois derniers kilomètres étroits comme c'était, les coureurs, ils ont explosé. Il y en avait partout.
Il y avait des barrages. Les
voitures ne pouvaient pas passer. À partir du moment où tu as une route qui est faite pour qu'une seule voiture, tu as déjà le président du jury qui était derrière les coureurs largués qui avaient du mal peut-être à les doubler. Donc je vois mal comment la voiture de Cadel Evans pouvait dépanner Cadel Evans au sommet du mur de Péguerre.
En tout cas, moi j'ai compris un truc, c'est que dans votre sport, dans le cyclisme, désormais, dès qu'il se passe quelque chose, on neutralise la course. C'était déjà arrivé. Rappelez-vous quand Cancellara qui avait neutralisé la course.
N'oublie pas la réflexion que j'ai faite cet après-midi pendant le direct en disant que des faits de course comme ça, crevaison, mais si à chaque fois on doit attendre les coureurs sur une crevaison, bah alors on s'en sort plus. Là, c'est dû. Je savais pas que c'était.
Il faut envoyer une safety car alors devant le peloton pour tout arrêter.
Aux punaises. Et là, c'est dû aux punaises. Là, c'est complètement différent.
Il faut envoyer des safety cars en cyclisme comme on le fait en Formule 1 pour neutraliser la course.
N'importe quoi, mais là c'est dû au
pourquoi pas,
c'est dû aux punaises et aux cons.
Pourquoi pas safety car
et surtout là, c'est dû surtout aux cons.
Évidemment, mais là neutraliser la course, c'est compréhensif.
Il faut savoir que Wiggins aussi a crevé un peu plus tard, mais dans la descente il s'est arrêté, il a changé de roue.
Mais
il y a eu une trentaine de...
La vraie question, est-ce que Pierre Roland avait remarqué qu'il y avait des crevaisons, puisque des crevaisons, attendez, le groupe de tête au sommet, il y a quoi? Il y a 25 coureurs, pas plus.
Oui, il y a trois
kilomètres plus loin, il en manque une dizaine. Il y a déjà trois Radio Shack qui ont crevé, il y a l'Alzheimer, plus d'autres qui n'ont pas été annoncés, puis on n'est pas au niveau de la course. Il y a quand même eu 30 crevaisons. Est-ce que c'est possible? Sans doute que oui. Est-ce que c'est possible de ne pas se rendre compte qu'il y a plein de crevaisons dans le groupe où on est? Et ce groupe d'ailleurs se met à ralentir. Il se met à ralentir justement suite aux diverses crevaisons, puisque dans toutes les équipes qui sont là, quand vous avez un coureur, il y a quand même des oreillettes qui fonctionnent aussi. Quand vous avez les coureurs qui, un coureur d'une équipe qui s'arrête, par exemple, comme Montfort, après il y a eu un autre Radio Shack, il y a eu Clodden qui a également crevé. À partir de ce moment-là, les coureurs Radio Shack qui jouent aussi le classement par équipe arrêtent de rouler. Les Quickstep arrêtent de rouler.
Sky aussi.
Les Sky arrêtent de rouler.
Ils ont fait signe. Quand il est sorti, a priori, ils n'en croyaient pas leurs yeux.
Parce qu'à un moment, il y a c'est Astarloa qui va discuter avec Viking pour arrêter.
Ouais.
Il discute avec Viking parce qu'il y avait les Sky qui roulaient. Et à ce moment-là, ils discutent, mais ils discutent au moins pendant 100 à 150 mètres.
Non, mais je crois qu'il faut qu'on arrête le débat.
Et à ce moment-là, ils arrêtent de rouler.
Faut qu'on arrête le débat sur Pierre Roland. Pierre Roland n'y est pour rien. Il s'est arrêté et tout. Donc voilà.
Il s'est arrêté contraint et forcé. Parce que je sais pas si t'as.
Mais oui, mais parce qu'il a eu les infos c'était dû aux punaises.
Tu l'as écouté, il n'avait plus d'informations. Et il a dit qu'il s'était relevé parce qu'il avait vent de face et que ça revenait trop vite derrière. Voilà ses mots.
Donc il avait bien les oreillettes quand même.
Non. Il avait peut-être une oreillette, mais c'était trop loin. Tu sais très bien qu'il y a une distance maximum aussi.
Autre témoignage intéressant, messieurs, je vous propose d'écouter ce qu'a dit tout à l'heure derrière la ligne d'arrivée Jean-René Bernodeau, le manager de la formation Europcar.
Sport, c'est pas ça. Et quand Pierre Roland est tombé à Metz, personne ne l'a attendu. Et pourtant, c'était à peu près à 40 km de l'arrivée aussi. Il perd 2 minutes et ça fait partie du jeu. Alors chacun défend ses intérêts. C'était pas une crevaison avec des punaises, c'était une chute. Et on n'attaque pas les gens sur chute. On va aller très très loin dans ces histoires-là.
Donc c'était fait exprès. Il a attaqué, là il le dit, ouvertement qu'il n'y avait pas, il n'y a pas à polémiquer, qu'il avait attaqué parce que il l'avait un peu en travers, que ce ne se soit pas arrêté sur la grosse chute.
Ça fait partie du jeu, dit Jean-René Bernadeau. Bon, bah, Pierre Roland qui a été victime d'une chute il y a
mais
de ça
si
quelques jours.
Mais si on écoute bien là, ce que dit Jean-René, moi je vais au fait. D'un côté, vous avez Pierre Roland qui dit c'était trop loin de l'arrivée, il y avait trop de vent, je me suis relevé. Et de l'autre côté, vous avez Jean-René Bernadeau qui dit on ne m'a pas attendu, on n'a pas attendu Pierre Roland lorsqu'il a été victime d'une chute. Il a perdu 2 minutes. Chacun défend son propre beefsteak. Hein, ouais, je ne transforme rien. Mmh. Ce qui veut dire qu'il n'y avait rien d'innocent dans l'attaque de Pierre Roland.
Voilà, là il l'a dit ouvertement. Là.
Bon, alors Cyril. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont raison ou tort d'attaquer? Ça fait partie de la course? Ça ne fait pas partie de la course?
C'est un vrai débat. Est-ce qu'on doit attaquer dans ces circonstances-là ou pas? Je pense que c'est plus par rapport au type de situation telle qu'elle est vécue. Il est vrai qu'au moment où Pierre Roland attaque, la bagarre est arrêtée. Lorsque la bagarre est lancée et qu'il y attaque, et c'était le cas, on va y revenir, de Contador Schleck, c'est Schleck qui lance la bagarre, Contador contre, Schleck a un problème, la bagarre est lancée. En plus, elle était lancée par Andy Schleck. Donc là, ça fait partie, on va dire, c'est un événement de course, la course continue. À partir du moment où on arrête la course, où tout le monde arrête en disant hop, on se met en stand-by et on attend que tous ces problèmes de crevaison soient résolus. D'ailleurs, pour plusieurs raisons, des fois dans ce genre de situation, il vaut mieux calmer le jeu, surtout si vous n'avez pas eu de crevaison, vous risquez d'en avoir une quelques temps après. Ce qui s'est produit d'ailleurs avec Wiggins. Donc là, il y a une sorte de gentleman agreement qui fait que, bon, ok, il y a quelque chose qui est en train de se produire. On peut tous en être victime dans les 3 km qui viennent. Hop, basta, on neutralise. Mmh. Bon, c'est à partir de ce moment-là où une attaque peut être mal vécue, mal perçue par les autres coureurs.
Par contre, je pense qu'il va avoir la pancarte dans le dos.
Oui, c'est ce que j'allais poser comme question, Thierry.
Les Europcars, ça va être terrible pour eux la dernière semaine.
Mais même s'il s'est relevé, il a fait amende honorable, il dit qu'il n'a pas entendu. Il s'est relevé au bout d'un moment.
Il dit qu'il s'est relevé parce qu'il y avait du vent.
Oui, voilà. Il dit ça, et en plus, le manager de l'équipe appuie la thèse que, de toute façon, il n'y a pas de cadeau à faire. On ne lui a pas fait de cadeau sur chute, donc il n'avait pas de cadeau à faire sur crevaison. Donc voilà. Bon, sur une crevaison, je comprendrais. Sur le fait de course qu'il y a eu cet après-midi, de multiples crevaisons.
Non, mais bon, de toute façon, ceci dit, mis à part tout ça, tactiquement, c'était très mal joué parce que de toute façon, il restait 30 bornes et vent dans la figure.
Oui, mais il a essayé.
Il pouvait s'attendre à rien. Oui, mais bon, c'était des forces pour rien puisqu'il y a quand même deux grosses étapes dans les Pyrénées qui arrivent.
À ce moment-là, on fait quoi? Deux étapes
dans
le Tour de France?
Au chrono, il a du mal, Pierre Roland. Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse face à une meute de Sky et tout ça, de BMC derrière, alors qu'il restait 30 bornes? Ça sert
à
rien.
Ou alors,
il aurait fallu attaquer dans le mur. Carrément, il aurait fallu attaquer dans le mur.
Très bonne analyse. Si, au sommet, la bagarre est lancée. C'est-à-dire que vous avez deux coureurs en tête à 10 secondes, vous en avez 3, à 30 secondes, vous en avez 4. Crevaison ou pas crevaison, la course s'arrêtait pas.
Ah oui, ça c'est sûr. Mais la course ne s'arrêtait pas.
Mais la course, il n'y a pas eu de course dans la montée du mur.
C'est parce que l'attaque s'est produite alors qu'il n'y avait pas eu de bagarre encore entre les deux.
Si la bagarre est lancée et qu'au sommet, ça passe par petits groupes de 2 ou 3, là. Crevaison ou pas crevaison, c'était parti et personne ne s'arrêtait.
Et même Pierre Roland n'a pas attendu le sommet pour attaquer. En fait, il aurait pu sortir sur le grimpeur.
Il a essayé à 2 reprises. Hein,
et puis prendre la descente. Ouais. Là, il est sorti, pas en facteur.
Pétard mouillé, quoi. Ils avaient tous des pétards mouillés.
Tiens, Thierry, un autre Thierry nous appelle au 32-16. Oui. Il voulait intervenir sur ce débat. Bonsoir, Thierry.
Ouais, bonsoir, messieurs. Bonsoir
Thierry.
Luc, Cyril et
Thierry. Bonsoir.
Moi, je vous écoute depuis tout à l'heure. Alors, si je peux me permettre, moi, la lecture que j'en ai eue devant les images en direct, et vous allez me donner votre avis. Moi, ce que je pense, c'est que quand Pierre Roland est parti, effectivement, ça ne roulait plus. À l'époque où on parle des oreillettes, où les gens, où les coureurs sont au courant immédiatement de tout ce qui se passe, je pense que quand il est parti, il savait très bien ce qui se passait. Il est parti pour reprendre du temps, et il s'est relevé uniquement quand derrière, ça a chassé pour revenir sur lui. Je pense que si derrière, ça n'avait pas chassé, qu'effectivement, on avait attendu Cadel Evans après ses deux crevaisons, Roland aurait continué. Il prenait du temps, et à un moment, il avait une 50 d'avance. Donc,
oui, bon, tout à fait d'accord avec vous.
Je pense que dans l'oreillette, on lui a dit tu roules, mais quand on a vu que derrière ça roulait, on lui a demandé de se relever. Alors maintenant, ils sont les apparences, bon, il y a des discours un peu contradictoires dans l'équipe. Voilà, moi, c'est le sentiment que j'ai eu en direct. Et ensuite, deuxièmement, c'est que il ne faut pas oublier que si ça n'a pas roulé derrière quand Cadel Evans s'est arrêté, c'est sur ordre de Bradley Wiggins, qui a fait un petit peu le tour de tout le monde, et on le voit en direct. Il parle notamment au coéquipier de Nibali en lui disant non, on ne roule pas, on s'arrête.
C'est peut-être parce qu'il n'a plus du tout peur de Cadel Evans aussi, Bradley Wiggins.
C'est mon avis aussi, mais moi, j'aimerais avoir l'avis de Thierry, Luc et Cyril. Est-ce que si ça avait été un autre leader à ce moment-là, est-ce que la décision aurait été la même?
Je pense que.
Si ça avait été qu'une seule crevaison de Cadel Evans, je pense que la question ne se posait pas. Le problème, c'est que derrière, vous avez eu une quinzaine d'autres crevaisons, et y compris de coureurs de chez Schalke, et y compris des coureurs de Liquigaz.
Même du leader, je te le dis. Il s'est arrêté, il a changé la roue. Donc Wiggins a aussi.
S'il n'y a qu'une crevaison et que c'est parti dans la descente, je pense pas qu'on attende Cadel Evans.
Ouais. Oui, parce que c'est un fait de course. Là, c'est un attentat contre la course. En fait. Voilà la différence.
Si je peux me permettre, Bradley Wiggins crève un petit peu plus tard, à un moment où ils ont décidé déjà d'attendre Cadel Evans quand même.
Oui, d'accord, mais bon.
Mais si la bagarre est lancée, il crève. Et il revient comment? N'oublions pas que les voitures étaient très loin.
Thierry, on va s'arrêter là sur ce débat. C'est très très tactique, évidemment. On y reviendra parce que ça va faire couler beaucoup d'encre au sein du Tour de France. Mais en tous les cas, vous avez entendu les explications de Pierre Roland et celles de Jean-René Bernodeau. Quoi qu'il en soit, bien Pierre Roland s'est relevé, a attendu tout le monde et tout le monde est arrivé avec un gros retard, plus de 17 minutes sur la ligne ici à Foix. Et ça ne change rien évidemment au classement général, puisque Bradley Wiggins conserve son maillot jaune et que Cadel Evans est toujours quatrième de ce Tour de France. Alors, c'est vrai que cette étape a été mouvementée à partir de ce moment-là. Alors, la question est un peu provoque, mais faut-il des clous pour avoir du spectacle sur ce Tour de France? Non, mais c'est vrai. Je vais évidemment pas pardonner le geste de cet inconscient, de cet imbécile. Et d'ailleurs, il est recherché actuellement par la gendarmerie. Mais
comment peut-on trouver un mec parmi des milliers de spectateurs dans la...
Par dénonciation.
Oui, ben voilà, c'est ce que disais tout à l'heure en direct cet après-midi.
Par dénonciation, mais il ne faut pas avoir peur de dénoncer quelqu'un qui fait ce genre d'acte.
Alors, il doit y avoir des témoins.
Et qui peut provoquer la mort de quelqu'un.
Oui, parce que.
Provoquer la mort de quelqu'un, je ne dis pas ça au hasard.
Tiens, on va écouter John Lelong, justement. John Lelong qui explique et qui pousse son coup de gueule contre ce geste vraiment débile de la part d'un spectateur. On ne sait pas d'ailleurs, c'est peut-être pas un spectateur, c'est peut-être un oiseau qui a déversé des.
Un pigeon, un pélican.
Des petites punaises.
Un pigeon.
John Lelong, le manager de la BMC.
Trois crevaisons avec ça, avec des clous de tapissé. Donc pour moi, c'est pas un sketch. Moi, c'est criminel. C'est criminel. Celui qui a fait ça, qui a mis des clous dans la descente, qui a mis des clous dans la montée, je pense que c'est plus que criminel parce que les chutes qu'il y a eu, les chutes qu'il aurait pu avoir, c'est vraiment criminel de voir des coureurs prendre des risques comme ça déjà dans une descente, de voir qu'ils sont sur des boyaux et de lancer des clous alors qu'on descend à plus que 80 km/h. Ouais, je trouve que c'est insensé.
Le Tour de France, c'est une fête, c'est un spectacle public où le public a accès. Et ça, je trouve que c'est du hooliganisme et c'est criminel.
Voilà, la réaction assez forte de John Lelong. La réaction maintenant de Jean-François Pécheux, le directeur de course du Tour de France, lui aussi évidemment, est outré par ce geste.
Regardez, j'ai dans la main des beaux petits clous, des pointes de tapissier. Ça, c'est bien pour les pneus, pour les boyaux, c'est formidable. Mais c'est idiot et bête. On va mener l'enquête. Et j'espère qu'on va retrouver celui qui a fait ça, celui ou ceux qui ont fait ça. C'était au sommet, à mon avis, c'était dans les 300 derniers mètres avant le sommet de la côte, puisque Claudine a crevé, a été le premier à crever. Et ça a un peu bloqué toute la file puisqu'on était en plein dans la foule. La voiture était pas tout de suite là. Bref, après tous les 50 mètres, il y a eu une crevaison. Il y a eu plein de crevaisons. On a déjà eu ça, mais j'ai pas souvenir de la date et le lieu et l'heure. Mais on a déjà eu ça. On a déjà connu ça.
Le mur de Péguerre aurait pu être le clou du spectacle. C'est raté.
Voilà, exactement. Oh là là, quelle finale! Quelle conclusion! Voilà. Et on a même crevé la voiture. Donc, vous voyez, même nous, on y a eu droit.
Voilà, la question était de Pilou Pilou, notre ami Pierre-Yves Leroux, qui a su rendre le sourire à Jean-François Péchot. C'est pas la première fois que des clous sont jetés sous les roues des coureurs du Tour de France. La première fois, ça date de 1904. Mais cette année-là, il s'était passé beaucoup, beaucoup de choses. Non, je me rappelle pas, mais je lis des livres de temps en temps.
Son grand-père lui a raconté.
Mon cher Thierry, figure-toi qu'il y avait même eu des caillassages de coureurs cette année-là. Des Nîmois, des supporters Nîmois de Ferdinand. Payan qui avait abandonné avait décidé de caillasser les coureurs. Donc tu vois, c'était beaucoup plus grave quand même.
Ouais,
hein.
Ouais.
Et puis dans la première étape, Maurice Garin et Lucien Potier avaient été agressés par quatre hommes masqués. Ils avaient été assommés sur la route. Donc tu vois, ça date pas d'hier. Et des imbéciles, il y en a toujours eu sur les routes du Tour.
C'était chaud. Faut pas donner trop d'idées quand même.
Et Henri Desgranges, le patron du Tour de France, c'était la deuxième édition de la Grande Boucle, avait failli ne pas renouveler l'histoire et il a bien failli ne jamais avoir de Tour de France en 1905.
Et donc, rappelez-vous l'année à Courchevel où les coureurs s'étaient déguisés. Il y avait des gens qui s'étaient déguisés en coureurs et qui s'étaient planqués sous le tunnel avant l'arrivée. On voit arriver 4-5 coureurs là où il y avait eu la moitié du peloton qui était hors délai. D'ailleurs.
Tiens, information de Georges Quirino, la direction du Tour a décidé de porter plainte contre X pour lancer de clous et voilà. Alors,
c'est un sport.
Pour en revenir à la question un peu polémique, un peu provoque, c'est vrai que c'est quand même le seul moment où il s'est passé quelque chose aujourd'hui, hein, messieurs. Non, pas d'accord avec moi? L'autre chose.
Si, il faut pas oublier quand même ceux qui sont partis de loin.
Oui, non, mais je parle pour le général. La bagarre qu'on attend, qu'on va attendre peut-être pour les 200 derniers mètres sur les Champs-Elysées.
Il est certain que plus les Nibali, Evans, je pense qu'on va s'en passer parce qu'il a fait une petite accélération. Il a essayé, hein, quand même. Ouais. Il a essayé. Ouais. Il a accéléré, Thierry.
Il a surpris.
Il n'y arrive pas. Mais par contre, Nibali, je pense qu'il n'y arrive pas non plus puisque s'il avait pu dans le mur de Péguerre, il l'aurait fait. Donc, en conclusion, la suite du Tour de France me paraît un petit peu... ça va être difficile, quoi. Hein. Je ne sais pas ce qu'on va dire tous les jours. Si on voit le train Sky, demain, il va y avoir un petit peu de mouvement parce que ça risque d'arriver au sprint. Mais dans 48
demain,
heures...
Demain, c'est peut-être un autre Sky qui va gagner.
Dans deux jours et dans trois jours, j'espère qu'on va avoir une belle course. Quoi. Ouais.
Je m'attendais à une attaque...
Qu'est-ce que tu attends de la suite de la course?
De Vandenbroek au pied du mur. Bon, là.
Non, on s'attend à plein de choses tous les jours.
Ils ont bien roulé, puis ils l'ont placé devant, gentiment, et ensuite ils ont laissé faire les Sky.
Non, mais je pense que ceci dit, ils n'ont pas les moyens.
Tout le monde est résigné, c'est facile à dire, mais c'est difficile à mettre en place.
Il y a peut-être une forme de résignation aussi, mais je vais m'attirer les foudres peut-être des organisateurs du Tour de France, mais on a eu deux étapes de montagne, celle de Saint-Jean-de-Maurial à Nonnay, avec deux cols au départ qui ne servaient pas à grand chose, enfin qui ne pouvaient pas avoir d'incidence sur le déroulement de la course et classement général. Et là, deux cols dans l'étape d'aujourd'hui, dont le dernier sommet est à 50 km de l'arrivée, avec une ascension, même si elle est très difficile, très pentue, et quand même relativement courte, et ne pouvait donc pas faire des écarts énormes, ce qui fait que les directeurs sportifs sont eux-mêmes en partie partagés entre demander à leurs coureurs de lancer une véritable offensive dans la montée du mur de Péguerre ou essayer plutôt de défendre et de ne pas prendre
Jean-François
de risque.
Péchot, vous le réagissez
hier
soir.
Ça fait deux étapes de montagne qui ne servaient à rien.
Et oui, mais Cyril, mais comment faire? Le problème, c'est que on peut pas achever l'étape en haut.
Il aurait fallu avoir la réponse.
On peut pas l'achever juste en dessous non plus. Il faut aller.
Cyril, il y a Jean-François Péchot. J'ai vu Jean-François Péchot ce matin au village. J'ai essayé d'appeler RMC et tout pour pouvoir répondre à Cyril hier soir. J'ai jamais pu. Je sais pas si la régie peut appeler Jean-François parce que si Jean-François
est
sur la route,
il est en train de porter plainte.
Là, il est sur la route. Il doit être en train d'écouter.
Il doit s'énerver.
Je suis sûr que Jean-François, il boue dans sa voiture. Il a envie de.
Je sais comment se font à peu près les parcours du Tour de France et c'est pas simple, mais Vous verrez que dans les jours qui vont venir, on va résumer le Tour de France à deux grandes étapes de montagne, la grande étape des Alpes et puis la traditionnelle grande étape des Pyrénées avec l'étape de Aubise-Tourmalet à Spain-Persourde. Mais si on regarde bien, on a l'arrivée aux Trois Belles-Filles, hein, la planche des Belles-Filles. Bon, c'est une montée sèche. Qui n'a pas fait de gros écarts, mais qui a fait un peu d'écart. Et puis l'étape de la Toussuire. En dehors de ça, il n'y a pas eu de véritable étape de montagne où il pouvait y avoir de grands mouvements, de grandes défaillances, puisque après la grande étape de la Toussuire, le lendemain on reprenait une étape de plat, quoi. Et là, on va faire une étape de montagne aujourd'hui avec deux cols dont le dernier est à 38 km de l'arrivée. Et puis demain, on a une étape toute plate. Et on a seulement, je suis désolé de le dire, mais une grande étape des Pyrénées. La deuxième étape des Pyrénées, c'est quand même pas non plus quelque chose d'extraordinaire, même si le final est très difficile. S'il se passe quelque chose dans la deuxième étape des Pyrénées, j'ai presque envie de dire, heureusement qu'il se passe quelque chose sans cette étape-là, sinon le vainqueur du Tour, ça sera fait contre la montre.
Mais comme le dit Christian Prudhomme, le Tour de France c'est un menu et c'est les coureurs qui en font ce qu'ils
veulent. Oui, mais à ce moment-là, il faut qu'on accepte que la course soit monotone. Hein.
Il faut même pas le critiquer, il faut seulement dire
que le menu était peut-être pas exceptionnel.
Ouais. Non, mais là il y a une équipe qui écrase aussi l'ensemble du Tour.
Duren,
il écrasait moins le Tour. Il y avait de l'adversité quand même.
Il n'y avait pas de mémoire.
Dès contre la montre, on savait qu'il avait gagné.
Non, mais d'accord, dans le chrono, mais après, il y avait de l'adversité dans la montagne. Alors que là, malheureusement, ils sont bons au chrono, ils sont bons en montagne,
À l'époque d'Eddy Merckx, c'était la même chose, hein,
Messieurs. Messieurs, le débat est clos. Merci, mon cher assistant. Il est parfait, ce Lucho, pour clore le débat.
Il a plus d'arguments, c'est pour ça.
Il veut parler de sa victoire d'aujourd'hui.
Messieurs, je vous demande de vous arrêter. Le jeu, puisque comme tous les soirs, on va gagner quelque chose.
Les opticiens Vision Plus vous offrent vos lunettes de soleil Tour de France sur RMC.
Des lunettes jaunes, hein.
Oui, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de soleil.
On n'a rien offert, j'ai toujours pas de lunettes de soleil.
Comme tous les soirs, elles sont magnifiques. Nous vous offrons donc 5 paires de lunettes de soleil Tour de France pour gagner. Vision Répondez plus. À la question suivante. Quel coureur a crevé à plusieurs reprises aujourd'hui? Si vous pensez que la bonne réponse est Cadel Evans, vous envoyez A par SMS au 732-16. Si vous pensez que la bonne réponse est Vincenzo Nibali, vous envoyez B par SMS au 732-16. Bonne chance. Voilà, on revient dans un instant. Et oui, on va célébrer la victoire de Luc Leblanc aujourd'hui. Il avait donné le coureur victorieux.
En plus, le troisième.
Il avait tellement envie de gagner que lorsque Leon Sanchez a attaqué, alors qu'il y avait des Français derrière, il applaudissait l'Espagnol. Leblanc n'est pas anti-espagnol.
Bah, je suis pas anti-espagnol du tout.
Allez, on revient dans un instant pour la suite de l'intégral
tour.
RMC, intégral tour. Christophe Cessieux.
L'intégral tour, la dernière ligne droite avant 20h. Nous sommes encore ensemble pendant quelques minutes. Et à 19h50, il est grand temps de parier et de revenir sur les paris du jour avec un grand winner aujourd'hui qui s'énorme, Luc Leblanc.
PMU.fr, paris sportif, paris hippique, poker.
Et on accueille Benji, évidemment. Salut Benji.
Salut Christophe, salut Benji. À tous.
Ah là, il faut reconnaître lorsqu'un garçon est supérieur, c'est Luc Leblanc. C'est Luc Leblanc qui a gagné aujourd'hui.
Et oui, c'est Luc Leblanc qui a gagné, mais moi aussi, hein, Christophe.
Ah,
quand
toi
même,
aussi
Benji. On va réécouter le petit récap d'hier.
Pour le récompenser, parce que la côté belge, je vais jouer Luis Leon Sanchez, cote 2,30.
Jérémy Roy, il n'est pas dans les
jouer comme toi, Jérémy.
Je pensais que tu allais jouer Jérémy Roy, donc j'ai pris Sanchez.
Je veux prendre Sanchez aussi.
Eh bien, on se le partage, Sanchez, avec plaisir.
Je veux prendre Luis.
Eh ben bravo, bravo messieurs. J'avais oublié, oui. Benji, que t'étais dans le coup aussi sur ce coup-là.
Je m'en suis douté.
Et en plus,
c'est
Luc qui a pris ta roue sur ce coup-là, parce que c'est toi qui l'avais donné le premier.
Benji qui a eu l'idée.
Ouais. Non, je pensais pas que Benji réagisse avant moi.
Bien sûr qu'il y a des noms à ça. En tous les cas, Benji, bravo. C'est Benji qui te bat sur la ligne d'un demi-boyau.
On avait préparé notre coup. On est Pierre Roland et Thomas Vauclair avec Lucho. Il y a une entente cordiale. On avait préparé notre attaque.
Je sais pas si t'avais entendu après Benji vite fait. Là, j'avais dit Cazard. T'as vu, Cazard, il fait troisième.
Ouais, mais c'est vrai. Ouais, mais bon, tu n'aurais pas gagné.
Mais là, t'as gagné.
Ça change pas mal de choses.
Alors,
hein,
vas-y, raconte-nous. Parce que je suis plus maillot jaune du coup.
Si, si, bien évidemment. Si, t'es largement en tête pour le maillot jaune. Mais on a l'espoir de revenir avec Lucho. On n'est que trois en positif désormais. Même le druide, ça faisait 2 ans et demi qu'il n'avait pas été en négatif. Tu es négatif, Cyril. Tu dois 11 euros au parieur d'RMC. Et grosse nouvelle, Lucho. J'avais prévenu que tu étais l'homme à suivre. Tu récupères le maillot à poids. C'est toi qui es à poids aujourd'hui.
Oh bah là, alors là, il a plus en pouvoir.
Et je me demande si c'est toujours pas lui qui a mis les clous.
Ouais.
Oui, c'est exactement ce que je me disais quand
on a trouvé le responsable, évidemment, c'est lui. On parie sur l'étape de demain. On a très peu de temps parce qu'on a, on a des choses à dire à Dédé qui est avec nous aujourd'hui. Le gros Léon, il a pas bien fonctionné aujourd'hui.
Il est pas monté.
L'étape de demain, c'est donc, nous sommes le 16 juillet demain, c'est Samatempo. Samatempo, c'est pour les sprinteurs.
Et c'est l'anniversaire de Greipel.
Et oui, il est favori du coup, Greipel. 3,30 pour gagner le jour de son anniversaire. Cavendish est à 4,20, Sagan à 7 et Goss à 8. Je vais tenter la victoire de Goss pour essayer d'aller shipper cette place à Christophe.
D'accord. Alors, donc comme Goss, c'est l'anniversaire de Greipel, moi je joue Cavendish.
Ouais. Oui, mais moi je voulais jouer Cavendish aussi.
Oui, mais bon, Non,
je veux jouer Cavendish.
Fais gaffe, je vais te mettre un
coup de
patin.
Il a combien Cavendish vite fait?
Cavendish, il est à 4,20.
Ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Moi, je joue Cavendish aussi.
Oh, les suiveurs.
Ah non, mais là, sur ce coup-là, ouais, attends. Il peut pas rester comme ça, même si. En plus, aujourd'hui, on l'a vu travailler en tête de.
Cyril,
en tête
il
de
nous
course,
écoute tous, là, notamment
va
sortir
ce qu'il va faire
dans l'ascension.
Il va gagner les 3 étapes.
Ouais, ouais, je pense.
Puisque demain, et puis celle des champs. Et voilà.
Alors, Cyril, est-ce que tu partages l'analyse très pertinente?
Je vais jouer Cavendish, puisque demain les Sky ne seront pas sollicités au-delà de la normale et que certaines équipes comme les équipiers de Goss et de Greipel vont faire une grande partie du travail pour que ça arrive au sprint.
C'est bon. Clair.
Greipel, il a combien?
Il est à 3,30.
Bah alors, je vais pas jouer comme vous, je vais mettre Greipel.
Ah. D'accord.
Bon alors, Cavendish, je vais gagner. Là, c'est sûr.
Mais moi, je joue le tout pour le tout. Greipel.
Eh oui, non, mais t'as raison. Il a raison pour essayer de revenir au score. Il y a que ça.
Comme moi, aujourd'hui.
Parfait. Donc, Cavendish pour Cyril, pour moi et pour Thierry. Voilà, et Greipel pour Lucho et Goss pour notre ami Benji. Voilà donc pour les paris. On y revient demain et on verra si vous continuez à vous rapprocher de moi au classement général. Merci Benji.
À demain messieurs.
À demain.
À demain.
PMU.fr, paris sportifs, paris hippiques, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Et il est où? Il est où
Dédé?
Dédé convoqué au camion parce qu'on a des choses à se dire, mon cher Dédé.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire de clous? Où était le gros Léon?
De clous de tapissier.
De clous de tapissier.
Vous aviez 15 minutes d'écart quand même entre l'échappée et le peloton. Vous auriez pu quand même passer la balayeuse.
Tu sais à combien roule une balayeuse qui travaille?
Non, mais je rigole,
roule à,
mon Dédé.
Ah oui, ça roule à quelques 10-20 km/h maximum, donc beaucoup moins vite qu'un peloton. Donc c'est impossible de passer, ça serait même très dangereux de passer un engin entre des échappés et le peloton, ça c'est pas possible.
Ça c'est pas vrai parce que les coureurs montaient pas plus vite que 15 à 20, ils montaient à peine à 12 km/h. Mais...
La route,
donc la balayeuse pouvait monter la même vitesse.
Imagine la balayeuse bloquée au milieu.
Ouais. Non, on va pas agresser Dédé le pont.
Non, évidemment.
La balayeuse dans le mur de Péguerre, c'est pas possible.
Voilà, c'est ça, c'est que tu nous disais que la route faisait 3,50 m, à un moment c'était même 2,50 m.
À un moment ça s'est même rétréci. Et là, la balayeuse ne peut pas passer dans des.
Et c'est pas quand même.
Vous avez aucun moyen d'éviter ce genre de choses.
Le balayage manuel.
L'erreur, est-ce qu'il y a des gens qui passent quand
on
même?
On a plusieurs. Alors, on travaille en étroite collaboration avec le Tour sur les tracés, enfin sur la gestion de l'étape, évidemment. Nous avons plusieurs patrouilles qui partent le matin, qui sont en tête de caravane publicitaire, qui sont en queue de caravane publicitaire. Il y a ma voiture qui est
non, entre toi,
la caravane.
Pas de balai,
et la
toi.
Non, j'ai pas de balai, mais je peux faire intervenir. si, mais je peux faire
on
intervenir.
On va te mettre un balai dans ta voiture dès demain, tu vois.
Ça va être sympa, tiens.
Et je me demande si c'est pas toi qui as mis les clous pour justifier ton boulot.
Exactement. Hein? J'aurais pas mis ces clous-là, j'aurais mis beaucoup
plus gros.
Ouais, beaucoup plus gros pour que ça soit, que tout le monde s'arrête. Donc il n'y a aucune possibilité de passer un engin entre des échappés et un peloton ou à quelques minutes devant la course pour des raisons de sécurité. On ne sait jamais si on est dans des engins de chantier qui peuvent soit tomber en panne, soit avoir des difficultés à passer à tel ou tel endroit. Parfois, ça doit manœuvrer. On ne peut pas faire ce genre de choses. La solution, c'est le balayage qu'on appelle balayage manuel. C'est le bon vieux balai de cantonnier avec des gars qui balayent quand ils ont une zone à balayer.
D'accord. Vous n'essayez pas de repérer les fauteurs de troupes sur le côté? Non, c'est pas.
Les fauteurs de troupes, si, quand on en voit, on avertit. Quand il y a des gens un peu bizarres, on a des possibilités d'avertir le tour.
Très bien. Cyril, juste.
Oui, une petite question. Est-ce qu'il ne serait pas possible sur vos engins d'avoir un système d'aimant?
On pourrait mettre des aimants, mais on va ramasser pas des clous. Hein.
Cyril,
peu importe, du moment qu'on ramasse au moins les clous.
Et dès que la machine est passée, le malade peut balancer juste derrière.
C'est ce qui s'est passé, parce que moi je suis passé très peu de temps avant les coureurs, je suis passé à 20 minutes avant les premiers coureurs, et 20 minutes avant le premier coureur, il y avait.
La moto RMC est passée avec les hommes échappés.
Bon, messieurs, il faut qu'on rende l'antenne.
C'était entre l'échappé et le clou. Le temps de maillot jaune.
Parfait, mon assistant. On n'a pas le temps de parler de l'étape de demain.
Non, il fera beau 18
degrés. De toute façon, il fait beau 18 degrés. C'est une plage jusqu'à Pau.
Voilà.
Et après, c'est l'étape
à
de
vous
repos,
les studios.
Donc, tout va bien. Merci, merci, mon cher Lucho. Merci, mon cher Dédé. À demain. Cyril également. Thierry également.
Au revoir, messieurs.
Tout le monde, à demain. Et donc, Cavendish va gagner pour que je reprenne la tête. Merci. Dans un instant, elle est là.
Oui,
elle est de retour.
Je
suis fort quand même, Lucho.
Ouais, très fort. Merci, Luc. Merci à tous. Oui, nous, on va se demander si l'équipe de France de basket est dans les clous à 12 jours des JO après cette défaite cet après-midi contre l'Espagne à Bercy. Un autre France-Espagne en handball à Strasbourg, retour sur ce match avec Daniel Costantini, et puis on sera avec Franck Dumoulin, champion olympique de tir à Sydney, qui s'apprête à participer à ses 6e JO, c'est Before London, et c'est juste après ça.
RMC Intégral Tour de France 2012.